Sylvain Rochon en remplacement de Jean Lemay. Des années et des années d'enseignement, des saisons et des saisons de hockey, des décennies et des décennies à la mairie de Saint-Joseph de Sorel. Olivier Gravel, décédé vendredi dernier, n'aura, tout pan de sa vie confondu, jamais laissé tomber les siens. Au cours de cette édition spéciale de « On a des choses à dire » qui se prolongera exceptionnellement jusqu'à 13h30, on va parcourir sa vie, un voyage qui va nous permettre de prendre la mesure de son héritage à la région. Mes compagnons de voyage, Sylviane, sa fille, enseignante, comme son père et sa mère, Serge Baron, le conseiller municipal qui a siégé le plus longtemps à ses côtés à Saint-Joseph-de-Sorel. Denis Boisvert, directeur général de la MRC de Pierre de Sorel. Vincent Deguise, le successeur de M. Gravel à la mairie de Saint-Joseph-de-Sorel. Sheila Destrampes, qui a travaillé à ses côtés à la Corporation de développement économique et au comité d'analyse d'une liaison autoroutière nord-sud. Souvenons-nous de son combat pour un pont entre Sorel-Tracy et l'autre rive du Saint-Laurent. Pierre Domingue, qui a participé à une coupe de ses tours du chapeau à l'Aréna au sang. Linda Dufault, éprise d'histoire, comme M. Gravel, qui nous rappellera sa contribution exceptionnelle à préserver et promouvoir l'histoire locale. Hélène Goulet, journaliste, au moment du regroupement des villes, qui se souvient combien cet épisode a été déchirant pour lui. Louis Plamondon, député de Bécancourt, Nicolas Sorel, qui sait ce que c'est durer en politique. Thérèse Mandeville, consoeur enseignante, qui va nous parler du prof d'anglais. Michel Péloquin, maire de Sainte-Anne-de-Sorel, qui nous dépeindra l'amoureux du lac Saint-Pierre, très sensible aux questions environnementales. Et Gilles Salva, qui chausse aujourd'hui ses souliers de préfet de la MRC de Pierre de Sorel. On a des choses à dire sur la vie d'Olivier Gravel, dès après la pause.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Il y a beaucoup de produits d'assurance disponibles et tout autant de compagnies d'assurance au Québec. Heureusement, chez Luciedel Parizeau, notre passion est de vous conseiller afin d'obtenir les meilleures protections au meilleur prix. Pour l'assurance de votre entreprise, de vos biens personnels et vos assurances individuelles, votre courtier est votre meilleur allié. Luciedel Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec.
Afin de mieux planifier votre prochaine randonnée en motoneige et pour profiter des meilleures conditions, nous vous invitons à écouter la chronique sur les conditions de sentier motoneige diffusée à tous les jeudis 8h40. Vous obtiendrez un résumé complet concernant les conditions des sentiers et l'organisation des différentes activités. Les conditions sentier motoneige, une présentation de la Halte des 103 îles, Métaux Richer et Frères Inc. et Performance NC.
De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Luciedel Parizeau cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Sylviane Gravel, bon midi.
Merci. Monsieur Rochon, bon midi.
Laissez-nous d'abord vous présenter nos condoléances. Votre père s'est éteint vendredi dernier, il avait 79 ans, il vivait depuis quelques années avec la maladie de Parkinson qui l'a obligé à prendre sans doute l'une des décisions les plus déchirantes de sa vie, quitter la politique et plus tard sa ville, comme ça a dû être déchirant.
Oui, c'est sûr, mon père, mais ça faisait de nombreuses années que mon père avait le Parkinson. Il a su à 60 ans officiellement qu'il l'avait, mais il avait déjà remarqué des tremblements là, de sa main gauche. C'est sûr que c'était à chaque décision d'accepter d'arrêter de travailler pour lui. C'était comme un deuil à chaque fois. Il était tellement actif et impliqué que c'était pas facile pour lui.
On a bien connu le maire de Saint-Joseph-de-Sorel. Maintenant, comment était le père? Comment était l'homme derrière le politicien, Sylviane?
Mon père, on pourrait dire qu'il a toujours été un travailleur acharné Et c'est ça qu'il nous a inculqué, qu'il nous a montré aussi. Lui, il avait un jardin à son chalet, puis c'était un grand jardin là, de 70 pieds par 32 pieds. Puis on l'aidait à tous les ans là, à faire les semences, et il a poursuivi. Il y avait même un deuxième jardin, un petit peu plus petit, pour les autres légumes, parce qu'il y avait aussi, le premier, c'était pour le maïs et les pommes de terre. Puis jusqu'en en 2018, j'ai participé avec lui à la semence, et lui, il utilisait encore sa pelle et il faisait encore de gros travaux malgré le Parkinson.
Ouais. C'est à votre naissance, je pense, qu'il a acheté ses terrains à la visitation de l'île du Pas pour y construire un chalet. Ses pèlerinages à l'île du Pas, c'était sacré, ça, hein?
Ah oui, l'été, là, son jardin, puis ses arbres, son terrain, c'était sacré. Assez que c'est lui-même qui a planté tous les arbres sur ses terrains. Puis il était tellement, Saint-Joseph de Sorel et la Pointe-au-Pin, il était tellement dans sa peau qu'il a même fait un coin dédié pour faire une mini Pointe-au-Pin sur un de ses terrains.
Ah, c'est bon. C'était un amant de la nature. C'était également un grand sportif.
Oui, c'était un grand sportif. Il a fait beaucoup de sport. Quand j'étais jeune, d'abord, en famille, on allait faire du ski de fond tous les dimanches. J'allais aussi le voir jouer au soccer. Puis, plus tard, il a commencé à pratiquer la course à pied. Puis, il le faisait pratiquement tous les soirs. Nous allions également en ski alpin. Puis, je me rappelle, l'organisateur demandait à mon père, avant de faire réserver un autobus, il disait, « Olivier, si j'organise du ski la semaine prochaine, est-ce que tu viens? » S'il disait oui, alors qu'il savait que son autobus serait... que son activité aurait lieu, parce que mon père, à lui seul, il réservait pour environ 10 personnes.
C'était un homme fier, toujours impeccable sur lui.
Ah oui, ah oui. Puis on a aussi, comme dans les sports, il y avait le hockey, bien entendu. Lui, il jouait au hockey deux fois par semaine. Je me rappelle pas jusqu'à quel âge exactement, mais jusqu'à au moins 60 ans. Puis c'est ce qui l'a obligé à arrêter, c'était une cheville qui restait toujours enflée. Puis ça prenait des semaines. Lorsqu'il arrêtait de faire de jouer au hockey, là, la cheville, elle finissait par désenfler. Donc, il n'a pas eu le choix à un moment donné d'accepter qu'il fallait qu'il arrête de jouer au hockey.
On va parler tantôt à un de ses coéquipiers au hockey, Pierre Domingue. On va beaucoup parler, évidemment, pendant cette émission de l'homme politique. Est-ce que vous vous souvenez de sa première élection?
Moi, je me rappelle, je me le suis fait raconter que c'était en 1969 qu'il a été échevin pour la première fois à la ville de Saint-Joseph, donc l'année de ma naissance. Puis il fut maire en 1975. Moi, ce que je me rappelle, c'est un peu plus vieille, la préparation des élections, de son implication. Il passait de porte en porte pour parler à ses paroissiens. Puis un peu plus tard, j'ai décidé de m'impliquer lors des élections. Puis, je me rappelle du décompte, de l'attente, de la frénésie lors des résultats. Puis de la joie ensuite d'aller retrouver ses conseillers parce que ça venait de. Il venait d'être élu une autre fois encore.
Plus de 40 ans maire de Saint-Joseph de Sorel, c'est incroyable.
Oui. On est fiers de ça. Il aurait même voulu se rendre à 50 ans de vie politique, mais c'est sûr que là, c'est la santé qui l'a obligé à un moment donné à arrêter un peu avant. Mais je pense qu'il devait être fier du nombre d'années qu'il a pu faire. En politique.
Quand pourrons-nous lui rendre un dernier hommage? C'est sûr que c'est très compliqué pendant cette pandémie.
C'est compliqué pendant cette pandémie parce qu'on voudrait que les gens puissent venir le voir. Donc, on va attendre qu'il y ait vraiment un déconfinement pour faire quelque chose à la couleur de ce qu'il voulait. Donc, on attend vraiment les nouvelles du gouvernement avant de prendre une décision, puis on l'annoncera à ce moment-là.
Sylviane Gravel, merci beaucoup, merci mille fois, puis encore une fois, nos meilleures pensées vous accompagnent.
Merci, puis je voudrais d'ailleurs remercier là, toutes les personnes pour leur témoignage de sympathie. Nous en sommes profondément touchés.
Merci Sylviane.
Merci, bonjour.
Serge Baron, bon midi.
Bonjour Sylvain, ça va bien?
Ça va bien, vous êtes le conseiller municipal, Serge, à avoir siégé le plus longtemps auprès de M. Gravel. Combien d'années, Serge?
On dit 24, mais ça peut être un petit peu plus que ça aussi. Là. J'étais là au début, là, lors des comités de citoyens qui étaient formés dans ce temps-là. Là. Donc, on a travaillé beaucoup. Puis, une chose que j'aimerais ajouter, c'est que Sylviane, tantôt, qui disait pour les élections, c'est qu'à chaque élection, M. Gravel avait toujours peur de perdre.
C'est vrai!
Il travaillait à plus que 100%. je vous le dis, il faisait la ville au complet, puis il la refaisait, puis même il nous aidait, nous autres.
Ouais, je ne me souviens pourtant pas d'élection particulièrement serrée dans son cas.
Il était pas serré, mais il avait quand même toujours peur.
Ah oui. À quoi carburait-il?
Il parlait comme s'il était sur le bord de se faire battre.
D'accord. À quoi carburait-il, M. Gravel, en politique? Comment vous expliquez qu'il en ait si longtemps fait? Qu'est-ce qui l'animait, au juste?
M. Gravel, il aimait être au courant de tout. Hein? Puis, nous autres, des fois, on s'estime un peu, on n'aura pas les mêmes caractères que je peux me permettre de l'appeler Olivard. Puis, il carburait, tout l'intéressait. Hein? La moindre petite chose qui se passait dans la ville, il était au courant. Puis, même à l'extérieur, là, je me souviens avec le pont, ça l'a pas mal influencé. Non, c'était un homme que tout l'intéressait.
Son leadership, comment le décririez-vous, Serge? Est-ce qu'il avait une bonne écoute? Est-ce qu'il avait une vision claire? Avait-il une bonne capacité d'influencer?
Oui. M. Gravel, c'était notre mentor. Hein? Lorsqu'ils arrivaient avec quelque chose, ils allaient rencontrer les usines, ils venaient puis ils nous racontaient qu'est-ce qui se passait. C'est sûr qu'on écoutait M. Gravel, puis on suivait tout ce qu'il nous disait. Là. Puis même, des fois, on estimait un peu, mais M. Gravel, il avait toujours raison. Sans vouloir nous le mettre, mais même si nous autres, on s'opposait un peu à ce qu'il nous disait, ben, en fin de compte, on s'apercevait que oui, M. Gravel, il était au courant, puis il savait ce qu'il en allait, puis c'est toujours lui qui avait raison sur ça.
C'était un gentil homme, quelqu'un qui était de commerce agréable, mais il avait du caractère.
Ben moi, je vais vous dire une chose. Dans toutes les années que j'ai passé avec M. Gravel, à notre table de conseil, je l'ai vu seulement qu'une fois choqué.
Il avait un bon contrôle.
Il avait un très, très bon contrôle, parce que je peux vous dire qu'il y a eu des fois, ça chauffait, même si on était à peu près tous du même parti, ça ne veut pas dire qu'on était toujours d'accord. Là. Fait qu'il y a eu des bonnes engueulades, donc on va dire. Là. Puis, M. Gravel, il avait toujours son calme. Puis, il revenait, il avait toujours raison sur nous autres.
Qu'est-ce que vous diriez être son principal héritage à la région?
Oh, M. Gravel, donc, les usines avec tout ce qu'on a réussi à faire avec Rio Tinto, dont l'environnement, tout ça, M. Gravel, lui, il était fort sur ça, l'environnement, les arbres, les décorations de la ville, c'est sur M. Gravel que ça a commencé, tout ça. Si vous promenez dans les fêtes, dans toute notre ville, les belles décorations qu'il y a, mais ça, c'est au début avec M. Gravel, ça a commencé tout ça. Là. Son parc, la piscine, l'aréna, c'est toutes des idées de M. Gravel, ça, là.
Merci beaucoup, Serge Baron, d'avoir participé à cette émission.
Moi, je vous remercie, puis je peux vous dire une chose, c'est que je suis certain que M. Gravel ne sera jamais un grand oublié.
Merci, Serge Baron.
Bonjour.
Denis Boisvert, directeur général de la MRC de Pierre de Sorel, bon midi.
Bonjour, Sylvain.
Olivard Gravel, Denis, a connu la naissance des MRC. Combien d'années a-t-il été préfet de la nôtre?
Au total, 16 ans. Ça veut dire 8 mandats de 2 ans. Puis dès 1984, il était nommé préfet, élu préfet, pour 2 mandats. Puis après ça, il a fait une autre période de 8 mandats, soit 16 ans, de 1996 à 2008, à peu près.
Il fallait être très volontaire, il fallait vouloir investir beaucoup de temps, puis il fallait d'autre part la confiance des collègues.
Oui, effectivement. Mais M. Gravel était généreux de son investissement, de son implication, hein. Je pense que tout le monde le sait, là, il était sur plusieurs comités, autant au niveau de la MRC qu'au niveau du territoire, mettons, montérégien. Puis on allait souvent à des assemblées des MRC à Québec. Puis tu sais, toute son implication sur plusieurs comités chez nous, issus de la MRC, je pense entre autres au comité régional de la famille et des aînés pour lequel il a été président. Il a fait avancer beaucoup ce comité-là. En environnement, il a été beaucoup sur la table de concertation de Richelieu, là, qu'Albert Calfoy avait mis sur pied. Ensuite, le comité de la zone d'intervention prioritaire, comité ZIP qu'on appelle, il s'était démarqué là-dedans parce qu'on avait fait beaucoup de démarches. Ça, c'est un territoire de toutes les MRC qui touche le lac Saint-Pierre. Puis, on avait fait beaucoup de démarcations avec Normand Garriépy aussi là, pour essayer de convaincre les gens qu'il fallait absolument créer un tel comité autour du lac Saint-Pierre. Fait que M. Gravel, il a donné beaucoup à la région puis à la MRC.
Il a aussi été préfet, pas préfet, président de la table des préfets de la Montérégie, hein?
Oui, oui, effectivement. Pendant deux mandats, ça veut dire quatre ans peut-être, là. Effectivement. Là, je me rappelle pas dans quelle période, mais il était très apprécié au niveau de la Montérégie aussi, là, tu sais, puis c'était une belle période. La table de concertation, à ce moment-là, il l'a l'idée d'une belle façon, je me rappelle. Puis, autant à l'Assemblée des MRC du Québec, je sentais que M. Gravel était très apprécié de ses confrères, là, parce qu'on y allait. Puis, il avait fait deux beaux mandats à la table des préfets.
Ouais, il y a certainement de ses collègues de l'extérieur qui nous écoutent aujourd'hui parler de lui, puisque l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, a partagé sur Twitter la diffusion de cette émission spéciale aujourd'hui à CJSO. Voilà. C'est un véritable monument de la politique locale qui nous a quittés vendredi, Denis Boisvert. C'est pas exagéré de dire ça?
Non, absolument pas. Moi, je l'ai côtoyé là, 33 ans, plus de 33 ans, 33 ans et demi. Là, puis il était très impliqué, il était dévoué, ce gars-là. Là, c'est vraiment un monument. Il a toujours été, moi je dis dans son implication, il a toujours été franc. Il disait les vraies choses, puis on pouvait discuter, puis c'est ensemble qu'on construisait. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un homme digne du poste de préfet aussi. Toujours de bonne humeur en plus. En tout cas, moi, je l'ai rarement vu là, de mauvaise humeur. Je me rappelle pas de l'avoir vu de mauvaise humeur.
C'était un gars quand même sérieux. C'était pas un grand blagueur, là.
Non. Mais on sentait qu'il appréciait les gens avec qui il travaillait. Moi, j'ai toujours senti ça. Mais effectivement, c'était pas un gars qui faisait des blagues, mais...
Il faut avoir un sourire en coin de temps en temps, par exemple, hein?
Ouais, ouais. Puis quand on discutait, en tout cas, nous autres, moi, j'ai eu l'occasion de monter souvent à Québec puis de revenir avec lui. Puis on avait des bonnes discussions plaisantes, là. Puis, c'était pas des discussions ternes. On s'amusait en revenant. Et même, tu sais, il y avait un côté, là, j'ai pas pu voir l'entrevue, j'ai pas pu entendre l'entrevue avec sa fille, mais je me rappelle, il y avait un côté familial. J'ai juste une petite anecdote à dire là-dessus. C'est quand on revenait après plusieurs, mettons, deux jours à Québec, là, il me disait, Denis, j'ai tellement hâte, là, je vais arriver chez nous, je vais avoir une bonne soupe faite par ma femme, ça va être bon, là, tu sais, ça va faire du bien. il y avait un beau volet à la famille.
Oui, oui, c'était un homme de famille. Que diriez-vous à être son principal héritage à la région?
Il y a toujours eu la préoccupation d'améliorer le cadre de vie des gens. Fait que je vous dis, moi, tout le volet autant environnemental, avec son implication au Carrefour, pas Carrefour, mais au comité régional de la famille. Il y a aussi, tu sais, durant sa préfecture, là, on a implanté le parc régional, la piste cyclable sur l'ancienne voie ferrée. Moi, je vous dirais que c'est tenté d'améliorer beaucoup. Au niveau de la MRC, là, c'était le cadre de vie des gens. C'est ma perception là-dessus, ouais.
Merci beaucoup, Denis Boisvert, d'avoir accepté notre invitation. C'est extrêmement intéressant.
Ben, merci à vous de m'avoir permis aussi de témoigner de toute mon admiration que j'ai pour M. Gravel.
Merci, Denis.
Merci, au plaisir.
De l'autre côté de la pause, Vincent Deguise et Sheila Destrampe.
Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec.
Tout comme pour l'émission, on a des choses à dire. Le magazine Contact Affaires vous fait connaître nos entrepreneurs, les enjeux et les réalités de notre vie économique régionale à travers des dossiers d'actualité. Publié deux fois par année depuis plus de 20 ans et distribué dans tous les lieux d'affaires de la région, le magazine Contact Affaires est édité par Cournoyer Publications. Il est disponible au bureau de Cournoyer Publications, à CJSO 101.7 et en ligne sur contactaffaires.com.
Chez Meubles André Beaulieu, nous tenons à vous rappeler que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette situation particulièrement difficile en vous offrant un service d'urgence avec livraison gratuite pour tous vos besoins. Qu'il s'agisse de réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, laveuses ou sécheuses, contactez-nous sans tarder au 742-2708 ou encore par messagerie Facebook. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour de plus amples renseignements et suivre nos mises à jour quotidiennes.
Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Na, 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 na. Ooh, CJSO 101.7 FM.
De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucie et Dale Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Nous voyageons ce midi sur les traces d'Olivard Gravel, maire de Saint-Joseph-de-Sorel durant plus de 40 ans. Vincent Deguise, son successeur, est au bout du fil. Bon midi, Vincent.
Bon midi, Sylvain.
Comment vivez-vous le décès de M. Gravel, Vincent? J'ai le sentiment que vous étiez très lié. Il m'a toujours semblé, en fait, qu'il se reconnaissait en vous, que vous lui rappeliez le jeune politicien qu'il a été.
En effet, le départ de M. Gravel, c'est un événement vraiment, vraiment important pour moi. Je crois que je ne ferais pas nécessairement ce que je fais aujourd'hui si M. Gravel avait pas laissé sa marque dans ma vie puis dans mon parcours. C'est un peu grâce à lui que je fais de la politique aujourd'hui, parce que tout le long de ma jeunesse, bien, je l'ai vu travailler pour ses citoyens. Il était capable d'embarquer, puis d'embarquer les jeunes aussi avec lui. Donc, c'était vraiment un apport important à mon parcours, mon parcours de vie puis mon parcours professionnel aussi.
Alors, ça a été votre mentor?
Oui, en quelque sorte. M. Gravel, ça a été mon mentor. Dès l'élection en 2013, lorsque j'ai eu l'intention de me présenter, en fait, M. Gravel nous en avait déjà, et je le voyais dans toutes sortes de choses. Je lui posais souvent des questions. Puis quand j'ai eu l'intention de me présenter en 2013, je me souviens très bien d'avoir discuté avec lui. C'était, à mon souvenir, le jour de la fête nationale. Puis on était au centre récréatif au centre. Puis je lui parle de ça. Puis il me dit oui, je te vois là, mais parle avec les gens. Va voir les citoyens. Fais du porte-à-porte. Il avait cette proximité-là avec les citoyens. C'est quelque chose qui m'a. C'est la première chose qu'il m'a dit. D'être proche des citoyens. Puis de parler avec eux, d'aller à leur rencontre. Et de cette façon-là, bien. Tu vas savoir ce que les gens en pensent, puis après, tu pourras faire ton idée finale.
Vous venez de faire allusion à la fête nationale. C'était important pour lui, hein, ce grand happening-là. Le mot est mal choisi quand on parle de la fête nationale, mais ce grand rassemblement à l'aréna au centre autour de faits volards, là.
Oui, puis M. Gravel était comme un poisson dans l'eau dans ces grands rassemblements-là. C'est un autre exemple qu'il m'a donné d'aller... De faire le tour, il faisait le tour des tables, il devait avoir 700-800 personnes dans l'aréna lors de cette journée-là, puis il prenait le temps d'aller voir chaque personne, puis il connaissait les gens qui étaient là. C'était impressionnant de le voir aller là-dedans, puis de discuter avec les gens. Il s'intéressait à eux. C'était important de s'intéresser aux citoyens puis aux gens qui étaient très importants pour lui.
Ouais, et c'était un intérêt sincère, là. C'était pas de la politique.
Non, il était très intéressé par les citoyens, puis il connaissait leur histoire de vie. Il savait, toi tu travailles à tel endroit, oui, puis comment ça va aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu fais, es-tu rendu à ta retraite, parce que c'était des questions, des intérêts du quotidien qu'il avait avec les citoyens puis les gens qu'il connaissait.
Il a eu du mal à quitter la politique. Quand la maladie lui donnait un break, là, qu'il connaissait de meilleures journées, on le sentait ambivalent, il s'accrochait. La politique, c'était une grande passion pour lui. Hein.
C'était, je crois, presque toute sa vie, la politique. Et puis je pourrais dire qu'il n'a jamais voulu quitter la politique. Il l'a fait par obligation, parce que la maladie était là, mais il n'a jamais vraiment voulu quitter la politique. Puis il s'y intéressait toujours. J'ai gardé contact avec lui par la suite, puis à quelques reprises, il me posait des questions. Je sais où il était, ben il parlait de politique. C'était en lui, cet élément-là.
Et sans doute que si la maladie n'avait pas frappé le côté cognitif, qu'il serait resté encore bien plus longtemps.
Sûrement. Il aurait certainement voulu arriver au 50e anniversaire de vie politique, M. Gravel, je n'en doute pas. Il aurait voulu continuer si les capacités de santé avaient été toujours là, ça, sûrement.
Alors, vous dites que vous étiez resté en contact, vous continuiez de vous voir de temps en temps. Il habitait là au Château L'Angelier?
Oui, effectivement, il habitait au Château L'Angelier. De temps en temps, quand on prenait des décisions à la ville, on l'informait de ces décisions-là. On entretenait une correspondance toujours avec M. Gravel. C'était un grand de notre municipalité. Si Saint-Joseph est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Puis on gardait contact. Il venait, quand la santé lui permettait, il venait de temps en temps dans certains événements de la municipalité. Je me souviens quand on a la dernière activité publique là, que j'ai fait en sa compagnie, c'était à Beauharnois, quand nous sommes allés dévoiler la plaque du bateau d'Echenaux, donc le dernier bateau qui avait été construit à Saint-Joseph. On avait fait la route ensemble, M. Gravel et moi, presque 2 heures et demie là, de route pour se rendre jusque-là, puis on jasait de toutes sortes de choses.
Oui, qu'il devait donc être fier.
Hein? Il était content, puis je me souviendrai toujours du moment où, après l'élection de 2017, au lendemain de l'élection de 2017, lorsqu'il m'a accueilli à l'hôtel de ville, on s'était revu pour la première fois. J'étais maire élu, lui, il était toujours maire, parce que je n'étais pas assermenté à ce moment-là, mais c'était un beau moment que je garde, je vais toujours garder dans mes souvenirs. Je le vois sortir du bureau du directeur général, puis venir à moi, me serrer la main, me féliciter de l'élection, puis de prendre... De continuer ce qu'il a fait pour la ville.
Ah, il vous aimait beaucoup. Il vous a remis, on va employer l'expression, les clés de la ville avec confiance. Il était rassuré.
Ben, j'espère qu'il était rassuré. Puis, à chaque fois qu'on fait quelque chose à la municipalité, je dirais qu'il est toujours, là. Il est toujours dans nos pensées. Des fois, je me dis, comme Olivard, il aurait fait ça comment? Olivard, il aurait pris ce dossier-là de quelle façon. Il nous a laissé plein de valeurs et plein de façons de penser, de façons de faire qui sont encore importantes pour moi.
Son héritage à Saint-Joseph-de-Sorel, c'est un héritage considérable?
Ah oui, Saint-Joseph est à son image aujourd'hui. Je dirais l'amélioration de la qualité de vie des citoyens a toujours été extrêmement importante pour lui. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, qu'il prenait une décision, c'était pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, que ce soit par rapport aux industries, à la circulation, à l'environnement, au niveau des infrastructures, l'amélioration des infrastructures, pour que ce soit toujours pour le mieux pour les citoyens, pour que les gens se sentent bien à Saint-Joseph.
Ça apaise votre peine, Vincent, que vous ayez su et que vous ayez pu lui rendre hommage de son vivant, je pense, au parc et à la salle de l'hôtel de ville qui porte son nom?
Ah, c'était vraiment, vraiment, vraiment important pour nous là, de rendre cet hommage-là à M. Gravel de son vivant. Je pense que la ville lui devait ça, les citoyens le voulaient. C'est pas dans les usages de nommer un lieu du vivant de quelqu'un, mais pour nous, c'était tellement important. On l'a fait, on l'a officialisé le jour de sa dernière séance publique. Donc, on l'a officialisé par résolution à ce moment-là. Puis, on l'a fait un peu par surprise pour lui, parce que c'est une résolution qui avait été amenée par des membres du conseil municipal. Donc, on l'a officialisé à ce moment-là. Puis, l'été suivant, lorsque le parc a été terminé, bien, on a fait le grand rassemblement qu'on a fait pour honorer la carrière politique et toute la part qu'il a fait pour notre municipalité. Puis bien, à tous les jours, on s'en souvient, parce que aussi à l'hôtel de ville, bien, la grande salle communautaire, la communauté était tellement importante pour lui. La grande salle communautaire porte son nom aujourd'hui.
Merci beaucoup, Vincent. Merci, Vincent de Guise, et mes condoléances.
Merci, Sylvain. Puis merci à toutes les personnes là, qui nous témoignent de leur souvenir.
Ah, c'est vrai, vous avez ouvert un livre de condoléances, là, électronique?
Oui, effectivement. La situation actuelle ne nous permettait pas d'ouvrir un livre de condoléances physiquement à l'hôtel de ville, mais on a ouvert un livre virtuel. Donc, les gens peuvent se rendre sur le site Internet de la municipalité et envoyer un message d'hommage à la famille de M. Gravel. Nous remettrons à la famille ce livre plus tard, là, lorsque la situation le permettra. Et les gens qui sont pas en mesure de le faire électroniquement peuvent nous envoyer à l'hôtel de ville un écrit, une lettre que l'on joindra à ce cahier-là qu'on remettra à la famille.
Merci à nouveau, Vincent de Guise. Merci beaucoup.
Merci, Sylvain.
Sheila Destrempe fut un pilier de la Corporation de développement économique, y travaillant aux côtés des commissaires industriels Bergeron, Dagenais, Lafrenière, De Tilly. Peut-être que j'en oublie. Bon midi, Madame Destrempe.
Bon midi, Monsieur Rochon.
C'est à la CDE que vous avez connu Monsieur Gravel. Que retenez-vous de lui, de ses qualités?
Monsieur Gravel, oh là là, c'est un personnage plein de qualités. Il était sur le comité de sélection lorsqu'ils m'ont embauché en février 1977.
C'est vrai, vous lui devez votre carrière. Ce fut un de ses bons coups, voyez.
Absolument, absolument. Il a toujours été tellement agréable et impliqué dans la région de façon à ce que c'était un exemple pour tous ses subalternes et ses amis, ses pères. Je vais vous dire, j'ai tellement de peine là, qu'il soit décédé. C'était vraiment quelqu'un de remarquable. Remarquable.
Monsieur Gravel a beaucoup, beaucoup promu l'idée d'un pont entre Sorel-Tracy et la Noraie. Il a fondé, pour fouiller cette question-là, le comité d'analyse d'une liaison autoroutière nord-sud. À un moment où c'était pas, selon mon souvenir à moi, un rêve partagé par l'élite. Est-ce que j'ai raison?
Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Mais M. Gravel croyait beaucoup à l'expansion de notre région en faisant la promotion d'un pont entre les deux rives, ainsi liant les autoroutes 30 et 40 sur la rive nord. Alors, il croyait profondément au développement régional de part et d'autre du Saint-Laurent avec cette liaison-là. Alors, il a vraiment travaillé très fort, investi tant et effort pendant des années. Peut-être qu'un jour, nous verrons ça. Je souhaite ardemment parce que c'était un de ses grands désirs. Et puis, je trouve que, dans un certain sens, il avait raison. Dans les années futures, ça devra se faire parce que on est un cul-de-sac ici, vous savez. Alors, en ouvrant la route, la voie autoroutière par la voie d'un pont, ça aiderait vraiment à la promotion des deux régions, des deux côtés du Saint-Laurent.
Monsieur, il y a M. Landreville qui a pris plus tard sa relève avec un style, disons, différent.
Oui.
Différent.
Oui. Il a travaillé également au niveau du projet. Je me demande où c'est rendu maintenant. Ça fait un moment que j'en ai pas entendu parler.
C'est vrai que ça semble tomber dans l'oubli maintenant. C'est assez triste. De quoi se rappellera-t-on surtout de M. Gravel, Sheila Destrempe, pensez-vous?
M. Gravel, c'était un grand voyageur. Lui et Mme Suzanne ont voyagé à plusieurs reprises avec moi. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs voyages en Europe et en Afrique du Nord avec eux, en leur compagnie. Puis il était toujours très bien documenté, très agréable en voyage. Il n'oubliait jamais de parler de sa belle région et investissait beaucoup de temps et d'efforts à faire connaître la région à de nouvelles connaissances et à les inviter à venir la découvrir. Alors, ça a été très plaisant de connaître M. Gravel sous un autre angle que le travail journalier dans les projets puis les comités sur lesquels il siégeait constamment. Alors, vraiment, je trouve que on perd un grand gentilhomme.
Merci beaucoup, Sheila Destrampe. Ce fut un plaisir de vous reparler après toutes ces années. Merci beaucoup.
J'offre mes sympathies à la famille et je vous remercie infiniment de m'avoir invité, M. Rochon.
Le plaisir fut pour moi. Merci.
Merci beaucoup.
Après la pause, on parle de hockey avec Pierre Domingue, qui se souvient d'une coupe de tour du chapeau d'Olivier Gravel.
Tout comme pour l'émission « On a des choses à dire », le magazine Contact Affaires vous fait connaître nos entrepreneurs, les enjeux et les réalités de notre vie économique régionale à travers des dossiers d'actualité. Publié deux fois par année depuis plus de 20 ans et distribué dans tous les lieux d'affaires de la région, le magazine Contact Affaires est édité par Cournoyer Publications. Il est disponible au bureau de Cournoyer Publications, à CJSO 117 et en ligne sur contactaffaires.com.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Il y a beaucoup de produits d'assurance disponibles et tout autant de compagnies d'assurance au Québec. Heureusement, chez Luciédel Parizeau, notre passion est de vous conseiller afin d'obtenir les meilleures protections au meilleur prix. Pour l'assurance de votre entreprise, de vos biens personnels et vos assurances individuelles, votre courtier est votre meilleur allié. Luciédel Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec. De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Luciédel Parizeau cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Olivier Gravel, à la vie duquel nous avons voulu consacrer cette émission, n'était pas qu'un politicien à succès, réélu élection après élection pendant plus de 40 ans. Il donnait pas sa place au hockey. Pierre Domingue, bon midi.
Bonjour.
Pierre, pendant combien d'années avez-vous joué au hockey avec M. Gravel?
Ah, plusieurs années. Je ne pourrais pas vous dire juste combien d'années, là, parce que j'ai joué pas mal... souvent au hockey avec lui, le lundi, le jeudi. C'est un très bon joueur de hockey.
Il jouait à quelle position?
Si je me souviens, c'est parce que les ligues de garage, des fois, tu changes de place. Des fois, tu es au centre, des fois, tu es à l'aile. Ça dépend. Des fois, on joue un contre l'autre. Des fois, on joue ensemble. Ça change beaucoup.
Et vous avez tous les deux joué jusqu'à un âge assez avancé. Vous étiez les deux plus vieux du club, là. La Ligue.
Oui, on était les deux plus vieux du club. Moi, je joue encore présentement. Bien, là, pas dans le moment parce que c'est à cause de la COVID.
Ah ouais, vous jouez encore. Là, vous avez quel âge?
75.
Il a joué jusque dans la soixantaine et c'est un problème avec une cheville qui l'a fait abandonner le hockey. Puis il était bien malheureux de ça.
Oui, il était tout disponible. Il venait nous voir de temps en temps parce que le jeudi, c'était la glace du maire qui était réservée. Puis c'est lui qui avait commencé ça. C'est lui qui s'investissait beaucoup là-dedans.
Je n'ai jamais vu jouer M. Gravel, mais on m'a dit qu'il était redoutable sur place. Vous avez assisté et participé à une coupe de ses tours du chapeau?
Oui, ça c'est toujours un homme qui était toujours présent. Il aimait beaucoup les adversaires. Il faisait des passes. C'est un très bon joueur de hockey sur la glace.
Ouais, mais est-ce que c'était un joueur combatif? Quel genre de joueur c'était, là? Si vous voulez, comparez-le-moi à un joueur de la Ligue nationale qu'on connaît, mettons, là, le style de qui?
Brendan Gallagher, un joueur qui veut toujours donner son maximum.
Il voulait gagner?
Oui, il voulait gagner. Il jouait pour gagner.
T'es agressif sur la glace ou...
Agressif, non. C'était... plutôt un joueur tranquille, mais qui faisait ce qu'il avait à faire, son ouvrage.
Un bon patineur.
Un bon patineur. J'ai joué contre lui, puis il était dur à déjouer.
Est-ce que mes souvenirs sont exacts? Il me semble que le père d'Olivard aiguisait patin à Saint-Joseph. C'est moi qui invente ça.
Je pourrais pas vous dire. Là, je ne sais pas du tout.
J'ai un souvenir rattaché à ça. Ou quelqu'un de sa famille, peut-être. Quelqu'un saura peut-être nous renseigner. Merci beaucoup, Pierre Domingue, de nous avoir partagé ces beaux souvenirs. Vous perdez un chum, là.
Oui, je perds un chum. Et mes sincères sympathies à toute la famille. Le dimanche, la dernière game, le dimanche, avant que l'aréna ferme, il organisait toujours un match de hockey pour les gens qui étaient là.
Merci beaucoup, Pierre. Et puis, bon retour au hockey là, quand la pandémie va nous lâcher.
Oui, espérons. Je joue encore au hockey, puis mon gars joue avec moi. Fait que c'est pas si pire.
C'est le fun. Merci, Pierre. Merci.
Merci, bonjour.
Linda Dufault partage l'une des grandes passions qu'a eue Olivard Gravel, l'histoire. Bon midi, Linda.
Bon midi, Sylvain.
En 1980, Olivard Gravel signe « Histoire de Saint-Joseph de Sorel et de Tracy », un livre de 480 pages qui a dû lui demander des années et des années de recherche. Je le feuilletais hier, c'est une véritable source de référence, particulièrement ce qui a trait au développement industriel de la région. C'est un riche ouvrage?
Ben, c'est un riche ouvrage, puis il faut se remettre dans le contexte, Sylvain, en 1980, les ouvrages qui retracent de façon générale l'histoire de la région sont plutôt rares et on commence à voir émerger des monographies de paroisse. On fait souvent référence à Couillard-des-Prés, d'ailleurs M. Gravel l'a consulté. Mais, bon, Couillard-des-Prés a écrit « Histoire de Sorel » en 1926. Walter S. White, comme Olivard Gravel, ce sont pas des historiens de formation. Alors, imaginez comment ils ont épluché des archives. Fait que Monsieur White a brossé très large aussi. Monsieur Gravel, il a aussi le mérite d'avoir vraiment centré une étude complète sur l'histoire de Saint-Joseph, et il aborde évidemment les débuts de Tracy. Donc, 100 ans d'histoire, le livre va paraître en 1980. Moi, je réalisais hier, Sylvain, je suis encore aux études en 1980, là, je suis à Jonquière, je me souvenais pas du lancement du livre comme tel. Il y avait déjà une monographie à Yamaska, 1977, qui était publiée. Alors, les gens qui s'intéressent à l'histoire de la région, on commence à avoir des brimes, puis 1980, c'est quand même pas loin, si on veut, là, de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Tu sais, c'est ce qui est intéressant avec le livre de M. Gravel, c'est que vraiment, il va plonger dans l'histoire navale, l'histoire maritime avant avec les McCarthy. Et là, on voit tout l'essor du développement industriel de la région à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour moi, ça en fait un document de référence, un ouvrage régional, général, à partir duquel les amateurs d'histoire peuvent continuer à développer des aspects particuliers. On a juste à penser à Louise Pelletier, par exemple. On peut penser en généalogie, parce qu'il parle des familles, il parle de la famille Champagne dans son livre. C'est ce qui fait la richesse de ce livre-là. C'est que c'est pas juste des usines, c'est pas juste des conseillers municipaux, mais ce sont aussi des gens et des familles.
Je ne sais pas si on peut encore se procurer ce livre, mais il est certainement dans les bibliothèques, nos bibliothèques municipales.
Il est sûrement dans nos bibliothèques municipales. Il me semble que M. Bastiani avait encore plusieurs exemplaires.
Ah ouais.
Oui.
C'est bon à savoir. M. Gravel n'a pas écrit que ça, il a beaucoup écrit. En 87, il fonde le bulletin « L'information municipale de Saint-Joseph-de-Sorel », puis en 99, le « Bas Richelois », c'est un bulletin sur les affaires de la MRC. Donc, il y avait un historien, mais aussi un journaliste en lui. Il aimait écrire.
C'est un excellent communicateur. C'est quelqu'un qui était très, très, très fier et de sa ville et de la région. Moi, je reviens dans la région comme journaliste en 1982. Et puis, dans le fond, j'assiste au balbutiement là, de la MRC à partir de 1983-84. Fait que je l'ai d'abord, moi, comme côtoyé, comme préfet. Là, il a travaillé à mettre en place la MRC. Là où moi, comme présidente de la Société historique, avec mes collègues de la Société historique, là où on a beaucoup travaillé avec son livre, c'est que vers les années 90-91, on avait la Société historique, on se préparait pour le 350e de Sorel, et on a accueilli le congrès de l'Association québécoise pour le patrimoine industriel, association qui existe encore aujourd'hui, et on a monté une exposition avec des archives, des tout premiers fonds d'archives industrielles que la Société historique accueillait, que ce soit Marine Industrie, Sorel Industrie, la centrale thermique. On avait des photos de la construction de l'usine de fer et de sable. Et c'est vraiment le livre de M. Gravel qui nous a permis de valider des dates, de valider des informations, les terrains. C'est sûr que c'était une rétrospective, c'était quelque chose de très général qu'on faisait, mais on pouvait prendre appui sur ces documents. Et vous parlez de d'autres bulletins qui de continuer à écrire. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant, qu'il faut retenir, surtout dans une société maintenant où on axe beaucoup sur la communication rapidement rédigée, les textos, les textes en 250 mots. Il faut juste se remettre dans sa peau et de dire, il a pris 5 ans pour écrire un livre, faire les recherches et le rédiger.
Wow, en effet. Merci beaucoup, Linda Dufault, d'avoir salué Olivard Gravel, l'historien.
Je salue l'homme, je salue sa discipline, sa rigueur, sa méthodologie. C'est un homme qui ne voulait pas laisser, je finis là-dessus, Sylvain, si vous me permettez, il ne voulait pas laisser passer sous silence les réalisations de ses ancêtres, c'est ce qu'on trouve en ouverture du livre. Et qui dit réalisation, dit action, puis résolument, Olivard Gravel a été un homme actif, qui a conjugué, si on veut, le passé, le présent et le futur. Alors, je le salue, mes sympathies à la famille et à tous ses proches.
Merci encore, Linda.
Bienvenue.